C'est dans saint Thomas ce qu'est la personne. Alors, la dernière fois, je crois que nous étions arrivés à ce point qui est sûrement le point très important. Voir comment la personne assume la nature humaine, c'est-à-dire le point de vue de l'âme et du corps. Selon l'expression même de saint Thomas, il y a une connexion admirabile. Mirabilis connexion. Donc, une connexion admirable. Une unité substantielle de l'esprit et de la matière. Et cette unité est celle de la personne. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de bien saisir. C'est de comprendre cette unité substantielle que saint Thomas souligne entre l'âme spirituelle, l'esprit et le point de vue de la matière. Et cette unité substantielle, saint Thomas n'hésite pas à dire que c'est celle de la personne. Selon le mot de Denis que reprend saint Thomas, la sagesse divine unit les extrémités des réalités supérieures au principe des réalités inférieures, faisant que ce qu'il y a de plus humble, de plus infime, dans un genre supérieur, touche ce qu'il y a de plus élevé dans le genre inférieur. Ainsi, le plus parfait des corps, qui est le corps humain, est uni à la plus humble des substances intellectuelles, qu'est l'âme humaine. Cette hiérarchie des corps et le point de vue de la substance intellectuelle, l'âme humaine, donc l'union des deux. Enfin, cette idée des néoplatoniciens qu'il ne faut jamais oublier, que le point de vue de l'homme et que l'âme humaine est l'horizon du point de vue des âmes spirituelles, substance intellectuelle et le point de vue des corps. Cette âme se trouve donc être, selon une expression néoplatonicienne, comme l'horizon et la frontière des réalités corporelles et incorporelles. Ça, il faut bien se le rappeler, parce que c'est un aspect que les pères de l'Église ont très fort développé, et que saint Thomas, lui, assume tout simplement comme étant ce qu'il considère comme ce qui est authentique, ce qu'on peut garder dans le point de vue du néoplatonisme. Anima intellectualis, c'est dans le Contra Gentiles, chapitre 68. Anima intellectualis, dicitur, esse quasi quidam horizo, et convinium corporeum. Et incorporeum. Donc dans le livre aussi du De Causis, la proposition de l'âme est l'horizon de l'éternité et du temps, l'âme humaine. Donc l'âme humaine est située de ce point de vue-là comme étant liée substantiellement au corps, étant dans sa partie supérieure, ouverte à l'esprit. Et le lien des deux. Et elle fait bien ce lien des deux. Ben, c'est pour essayer de préciser, c'est toujours ce souci, essayer de préciser ce que représente la personne. La personne étant l'esprit qui assume le corps. Décidément, ce cours à 3h15 n'a jamais de succès. J'ai commencé puisque c'était dit 3h15. Et c'est qui? Quel est le frère qui doit sonner? C'est vous. C'est qui? Parce que moi je suis du côté des sœurs. Alors les sœurs, elles sont fidèles, vous voyez. À ça sonne pas. Elles sont toutes là. Tandis que les frères ne font pas attention. Alors, on fait 3h15, je crois. Parce qu'il y a eu 3h30 au début, puis 3h15, puis alors ça fait un peu de flottement. Donc, il faut fixer 3h15. Donc, substance incorporelle, elle est pourtant forme d'un corps. C'est très difficile à comprendre. Faut bien se le dire. C'est facile de voir la distinction forme et matière. Je dirais ça, c'est relativement facile. De voir la distinction forme et matière. Ce qui est très difficile, c'est de comprendre une substance spirituelle qui informe un corps. Et qui demeure comme substance spirituelle, quelque chose en elle qui ne soit pas atteint par le corps. Et ça, c'est le regard du théologien. Le philosophe, lui, patauge. Et quand vous regardez le De Anima d'Aristote et l'enseignement que donne ici saint Thomas, vous voyez qu'il y a une très grosse différence entre les deux. Un des points sûrement où saint Thomas, en tant que théologien, a une hardiesse, où il assume par le fait même certains aspects du néoplatonisme. Oui. Et c'est toutes ces choses-là qui feront dire que saint Thomas n'est pas entièrement aristotélicien et qu'il est un peu néoplatonicien. Parce qu'il reprend des formules qui sont des formules néoplatoniciennes, pour ne pas le cacher. Et donc, je ne dis pas qu'il fait la synthèse d'Aristote et du néoplatonisme, ce serait très fou. Et c'est là où la position est très importante à saisir comme une position de théologien. Il part du fait même de l'âme créée directement par Dieu. Si l'âme est créée directement par Dieu, elle est donc une substance son essai, puisqu'elle est créée par Dieu et que tout acte créateur de Dieu se termine à l'essai. Oui. Alors, il part de cette idée-là, et je crois que c'est cette idée-là qui commande toute sa vision. À la place de partir d'en bas, le philosophe, lui, part des opérations humaines, le De Anima d'Aristote. Et à partir de là, il induit une source. Une source unique de toute la diversité des opérations qui fait l'unité. Saint Thomas, lui, part de l'acte créateur, toujours comme théologien, partant de l'acte créateur, puisque l'âme humaine est créée par Dieu. Ça, c'est une donnée de foi. Puisque c'est une donnée de foi, le théologien part de là. Donc il voit tout de suite que cette âme subsiste en elle-même. N'existe que dans le corps. Mais elle a toute la capacité de subsister en dehors du corps. C'est pour ça qu'elle peut exister après. Mais elle est créée par Dieu immédiatement et donc elle existe et elle subsiste dans le corps. Elle est donc ce qui à la fois informe le corps, fait l'unité avec le corps, et en même temps, ce qui est une capacité d'aller plus loin, une capacité d'exister par elle-même, de subsister par elle-même. Donc, substance incorporelle, elle est pourtant forme d'un corps. Vous ne pouvez le penser qu'à partir de la foi. Ne cherchez pas de penser inductivement. Vous voyez, c'est une pensée théologique. C'est ça qui est difficile, parce qu'on a vu le De Anima d'Aristote, puis on attaque le traité de l'âme sur saint Thomas, on continue de penser un peu certaines parties de la somme comme si c'était de la philosophie, alors que c'est de la théologie. Et c'est vraiment une vision d'en haut. C'est la vision dans la sagesse de Dieu. Et que la sagesse de Dieu veut, alors c'est le grand principe que je vous citais tout à l'heure, que saint Thomas reprend, qui vient de Denis, et qui est un principe de sagesse au niveau théologique. les extrémités des réalités supérieures au principe des réalités inférieures. Les réalités supérieures, c'est la substance séparée, unie à la matière. Alors, il y a une unité qui se fait entre le monde invisible et le monde visible. Et cette unité, c'est l'homme. Voyant donc le point de vue de l'âme qui se... subsiste en elle-même. Si vous laïcisez cette position, vous aurez donc la tentation cartésienne de faire une métaphysique de l'esprit. Je crois que c'est à propos justement de l'âme qu'on doit se poser la question. Nous disons-nous métaphysique de l'être? Est-ce que c'est par fidélité à Aristote? Ou est-ce que de fait, même après saint Thomas, après tout ce que disent les pères de l'Église, on doit maintenir cela? Ou est-ce qu'on devrait dire métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit, métaphysique de l'amour? Il y aurait comme trois âges métaphysiques. Si je prends plan dialectique et historique, je dirais il y a la métaphysique de l'être qui est grecque. Je dis ça, c'est parce que bon, c'est la tentation actuelle. Et je comprends très bien, il faut comprendre cette tentation à propos du problème de la personne humaine. Parce que si on ne voit pas ça, on ne comprend pas ce que c'est que la personne humaine. Est-ce que la personne humaine ne pose pas une nouvelle métaphysique? La métaphysique de la personne. Il y a la métaphysique de l'être, mais il y a la métaphysique de la personne. Comme il y a une théologie naturelle, il y a une métaphysique de la personne. Et ça, c'est la tentation cartésienne et occamienne. Vous voyez, métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit et de l'intelligence, donc de la lumière, et métaphysique de l'amour. Alors la métaphysique de l'amour, ce serait Max Scheler. Et puis nous en avons des témoins éminents aujourd'hui qui seraient la métaphysique de l'amour. On aurait donc trois âges au point de vue métaphysique. Ce serait très beau du reste. C'est magnifique. Parce qu'alors on dirait l'ère chrétienne a dépassé la métaphysique de l'être pour montrer que l'âme spirituelle subsistait en elle-même. Et donc métaphysique de l'esprit. Qui serait la métaphysique de l'ange. Si l'ange fait de la métaphysique, est-ce qu'il fait une métaphysique de l'être ou une métaphysique de l'esprit? L'ange peut faire de la métaphysique. Alors est-ce que l'ange, quand il fait de la métaphysique, est-ce qu'il ne fait pas une métaphysique de l'esprit? Donc une métaphysique de la lumière. Et comme nous, il y a ce privilège que la grâce chrétienne développe éminemment le point de vue de la volonté et de l'amour. Dans les derniers temps, métaphysique de l'amour. Alors vous auriez les trois. Et ce serait, en définitive, la métaphysique de la personne qui se développerait de deux manières, métaphysique de l'esprit, métaphysique de l'amour, et qui donnerait comme soubassement la métaphysique de l'être. L'ontologie fondamentale de Heidegger. Vous voyez, ce serait très tentant de faire ça. Ce serait très tentant. Et je crois qu'il faut sentir la tentation. Le père Dubarle, dans sa dernière année à l'Institut catholique, avait posé le problème métaphysique de l'être d'Aristote, métaphysique de l'esprit de Descartes. Est-ce que nous ne pouvons pas faire la synthèse? Dépasser à la fois la métaphysique de l'être et dépasser la métaphysique de l'esprit. Alors la synthèse serait peut-être la métaphysique de l'amour. Vous voyez, on aurait les deux. Objectivité, subjectivité, transsubjectivité et une objectivité tout intérieure avec l'amour. Bon, on peut très bien faire ça. Il faut le sentir parce que je vous affirme qu'on ferait ça, on aurait un succès monstre. Parce que ce serait tellement à l'ordre du jour. Et on sent très bien que ce serait très séduisant. ça. Et puis essayez de le faire, moi j'aimerais beaucoup que vous puissiez faire ça. Ce serait très intéressant. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut le faire? Mais on voit très bien comment vous laïcisez la pensée de saint Thomas sur l'âme humaine, que vous arrivez et vous aboutissez à ça. La laïcisation de la théologie, ça a été Descartes. Métaphysique de l'esprit. Ça, c'est sûr. Cogito ergo sum. Donc, sum, c'est ontologie fondamentale. C'est dans les caves. Ce qui apparaît, c'est le cogito. Et ocam intelligo et amo Socratem. Donc je suis. Vous avez donc métaphysique de l'esprit, métaphysique de l'amour et l'ontologie fondamentale de l'être. Ce serait très étonnant de faire ça. Alors, je crois qu'on ne peut pas. Parce que on fait la métaphysique de nos expériences. Je n'ai pas l'expérience de mon esprit séparé. Tu vois, jusque maintenant. J'aurai cette expérience au moment de la mort. C'est pour ça qu'il faut attendre la mort avec un tel désir, puisqu'à ce moment-là, on aura l'expérience de la vieille guenille qu'on laisse tomber. Et que l'âme pourra réfléchir sur ce que c'est que l'esprit. Alors à ce moment-là, il faudra un scribe pour écrire métaphysique de l'esprit. On fait la métaphysique de nos expériences. Nos expériences, elles sont toujours liées aux sensations. Parce qu'elles sont toujours liées aux sensations, nos expériences montrent que le domaine de l'intelligence, l'intelligence réfléchit sur elle-même, demeure dans l'intentionnalité. Vous voyez donc que la métaphysique de l'esprit, c'est une sorte de phénoménologie de l'esprit. C'est pas une métaphysique. Parce que réfléchir sur la vie d'intelligence, c'est réfléchir sur la forme intentionnelle. La forme intentionnelle ne peut jamais être substantielle, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être première dans l'ordre de l'être. Elle est toujours quelque chose de second. Elle est du vécu. Le vécu de la forme intentionnelle, c'est le concept. Et donc, je ne peux pas faire une métaphysique de l'esprit. Je peux seulement découvrir progressivement ce que représente cette forme intentionnelle qui est la vie de l'intelligence. Je peux faire la même chose pour l'amour. L'amour est toujours vécu dans une forme intentionnelle. Donc, je comprends que je peux faire une critique de l'esprit, une critique de l'amour dans une attitude réflexive. Je peux comprendre l'absolu que représente l'esprit, mais ça ne peut pas être une philosophie première, puisque seul ce qui est saisi dans un jugement d'existence est premier. Votre jugement d'existence par rapport à la pensée, par rapport à l'amour, n'est jamais premier. Il présuppose toujours celui qui pense. Et celui qui pense n'est pas à penser. Vous ne pouvez pas vous identifier avec votre pensée. nécessairement. Il n'y a qu'une seule métaphysique, celle de l'être. Mais je vois très bien la tentation. Et c'est le problème de la personne, tel que saint Thomas la pose, qui nous fait comprendre cette tentation. Si j'étais néoplatonicien, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait les trois hypostases. Qu'on pourrait peut-être renouveler les trois hypostases. Les trois hypostases, vous connaissez l'un, l'intelligence et l'âme. Alors, transformer l'un, l'intelligence et l'amour. Vous voyez, dans le néoplatonisme, on n'a pas une métaphysique de l'être. On n'a pas une métaphysique de l'un. On a trois moments dans la recherche métaphysique qui n'est plus une métaphysique. Parce que le lien entre l'être et la vie, ou la confusion entre l'être et la vie, existe. Il n'y a pas la distinction suffisamment nette. Quand vous avez compris que le point de vue de l'être est premier et qu'il est seul substantiel. C'est là la différence entre l'âme et la substance. Qu'il est seul substantiel. Seul l'être est substantiel, c'est-à-dire premier et source de l'acte d'être. Ce n'est pas l'intelligence qui est source de mon acte d'être. L'intelligence existe en fonction du sujet pensant. C'est-à-dire, la pensée existe en fonction du sujet pensant. L'intelligere n'existe qu'en fonction de la personne. Et l'amare, aimé, n'existe qu'en fonction de la personne. Ça donne une espèce de relief beaucoup plus grand à ce que c'est que la substance. Je ne peux pas définir la personne sans regarder la substance. C'est vrai que la personne unie, substance, intelligere, amare, la personne unit les trois. Mais la personne unit les trois sans les confondre. Et en maintenant la différence entre l'aspect substance au niveau de l'être, l'intelligere et la marée au niveau de la vie. Oui, mais c'est vrai que la personne fait le lien entre les deux. Alors, la question qui se repose, qu'on avait déjà posée tout à l'heure, ne faut-il pas, étant donné l'importance de la personne et ce que représente ce quelque chose de tout à fait nouveau, avoir deux métaphysiques, une métaphysique de l'être in communi, à la manière de Wolf, et une métaphysique de la personne. Et à partir de la métaphysique de la personne, je mourrai à la métaphysique, à la théologie. Alors là, le problème se pose. Si la personne me donnait un nouveau principe dans l'ordre de l'être, ce serait possible. Mais la personne ne me donne pas un nouveau principe au point de vue de l'être. La personne implique l'âme spirituelle, qui implique l'intelligence et la volonté. Et l'âme spirituelle, elle est substance qui informe le corps. La personne est donc, nous le verrons progressivement, est donc une manière d'exister. Elle n'est pas un principe. Mais il faut vous poser la question. Est-ce que la personne nous donne un nouveau principe ? que c'est simplement une manière d'exister qui s'enracine dans la substance, qui s'épanouit dans la pensée et dans l'acte d'aimer. Oui. Mais l'unité, c'est une manière particulière d'être. Donc, essayez de réfléchir sur ça, parce que c'est quand même important pour nous de savoir exactement ce passage d'une théologie de la personne. C'est une théologie de la personne que nous donne Saint-Amand. C'est pas une philosophie de la personne, c'est une théologie de la personne. Une théologie de la personne. Et si de fait, cette théologie de la personne demanderait une partie de la métaphysique, qui serait la métaphysique de la personne. Je vous ai dit au début, hein, posons-nous la question, est-ce que le problème de la personne va poser tout une recherche nouvelle qui serait la métaphysique chrétienne? Et la métaphysique chrétienne serait la métaphysique de la personne. Ce serait beaucoup plus juste de dire ça que de dire que il y a une métaphysique chrétienne par rapport à l'être. Par rapport à l'être, c'est impossible, une métaphysique chrétienne. Tandis que par rapport à la personne, la question se pose. Puisque de fait, la personne a été élaborée en terre chrétienne par des théologiens et par les pères de l'Église. Donc, substance incorporelle, elle est pourtant forme d'un corps. Et saint Thomas ajoute que l'unité constituée par la substance intellectuelle et la matière corporelle n'est pas moindre que l'unité qui existe entre la forme du feu et sa matière. C'est saint Thomas qui dit ça. Que l'unité constituée par la substance intellectuelle et la matière corporelle n'est pas moindre, on peut même dire qu'elle est plus grande, n'est pas moindre que l'unité qui existe entre la forme du feu et sa matière. Elle serait plutôt plus grande, ajoute saint Thomas, car plus la forme est victorieuse de la matière, plus grande est l'unité réalisée par elle et la matière. Ce texte est très beau, parce qu'il montre bien combien saint Thomas insiste sur cet aspect de l'unité profonde entre les deux. C'est dans le Contra Gentiles, livre 2, chapitre 68. Non autem minus est aliquid unum, ex substantia intellectuali et materia corporali, quam ex forma ignis et eius materia, cette forte magis, quia quanto forma magis vincit materia. C'est des termes néoplatoniciens, ça. C'est les termes de Platon. Platon parle de la forme victorieuse de la matière. Et quand la forme est victorieuse de la matière, on est en face de la beauté. Et la beauté, c'est la victoire de la forme sur la matière. Donc, il y a un combat, puisqu'il y a une victoire. Autrement, il n'y aurait pas de combat. Quia quantum forma magis vincit materiam, exea et materia evicitur magis unum. Donc, il y a une unité plus radicale, plus foncée. C'est dans le Contra Gentiles, au chapitre 2, au livre 2, chapitre 68. C'est un endroit très important. Puis c'est le Contra Gentiles, donc c'est la charnière. C'est saint Thomas qui est encore près de toute une tradition néoplatonicienne et qui pourtant assume tout l'aristotélisme. C'est ça le Contra Gentiles. Et alors ce qui est très curieux, c'est que là, dans le Contra Gentiles, il est dans une perspective philosophique. Mais les textes que je vous ai donnés tout à l'heure, les textes sont beaucoup plus forts dans la somme théologique quand il s'agit de montrer l'indépendance de l'âme spirituelle par rapport à la matière, par rapport au corps. Parce qu'alors là, on est tout à fait en théologie. Si la personne humaine implique l'union de l'âme, parlez de la personne, vous n'êtes plus au niveau de l'analyse. Quand vous parlez d'un principe, vous êtes au niveau de l'analyse. Mais quand vous parlez de la personne, vous n'êtes plus au niveau de l'analyse. Donc la personne désigne quelque chose de complet, d'intègre un tout. La personne est ce qu'il y a d'ultime dans le genre de la substance. Elle est la manière d'être parfaite d'une substance de nature intellectuelle. La manière d'être parfaite. La personne, c'est une manière d'être. C'est un pose. C'est un comment. Ce n'est pas un principe. Oui, c'est là où vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire une métaphysique de la personne. Puisque la personne présuppose une analyse. Mais la personne, c'est une manière d'exister. Donc, la métaphysique présuppose une analyse. Si c'est une métaphysique scientifique, si c'est une métaphysique descriptive, donc phénoménologique, alors très bien. Je crois que la personne est au cœur de la phénoménologie. Il me semble. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une nouvelle méthode philosophique pour étudier la personne. Parce qu'elle est au cœur de tout cet aspect, cette attitude réflexive d'une méthode phénoménologique qui étudie une manière d'être en réponse à une objection qui, s'appuyant sur la définition de Boès, prétendait que le Christ en tant qu'homme est une personne. Saint Thomas précise que la substance individuelle qui entre dans la définition de la personne, selon Boès, implique une substance complète, subsistant par elle-même, indépendamment des autres. C'est paradigme. Alors, vous voyez bien comme la fameuse distinction de Maritain entre individu et personne. C'est une distinction qui repose sur ces passages de saint Thomas. Dans le Christ, dans le mystère de Jésus, je distingue l'individu et la personne. L'individu provient du corps du Christ, assumé par son âme. Et la personne, c'est le Verbe qui subsiste. Donc, il y a une distinction réelle entre l'individu et personne. Mais c'est ça le mystère de Jésus. Je n'ai pas le droit de transposer cette distinction, qui est une distinction au niveau du mystère, au niveau de mon étude philosophique. C'est pourquoi la raison de partie, dit saint Thomas, est contraire à la raison de personne. Est contraire. J'oppose les deux. La partie n'est jamais le tout. Et la partie ne peut jamais être une personne. C'est du reste pour cela que l'âme séparée, tout en étant partie principale, est d'une certaine manière un tout, ne peut être dit personne au sens rigoureux. L'âme séparée est une personne en attente. C'est une personne en promesse. Saint Thomas dit ça dans le De Potentia. Question 9, article 2, à la 14e réponse. L'âme séparée est une partie de la nature rationnelle humaine. Pars rationalis naturae, Chatoumanet. Et non, toute la nature rationnelle humaine. C'est pourquoi elle n'est pas une personne. Dans le débat d'un dia. Oui, je crois ça très important. Parce que ça montre bien que la personne n'est pas un principe. Dans la pensée de saint Thomas, il faudra ensuite au point de vue philosophique, mais je cherche à comprendre ce que saint Thomas veut dire par le mot personne, qui sûrement dans sa philosophie, dans sa théologie, est une clé. C'est peut-être là où on saisit l'originalité la plus grande de la pensée de saint Thomas. Ça ne m'étonnerait pas du tout le passage de Boèce à ce qu'il dit. Comment, pour cela, il a su la pensée philosophique d'Aristote. Et il maintient toute une perspective néoplatonicienne. Et il peut le faire, parce que le néoplatonisme est d'ordre descriptif, et donc montre avant tout la manière d'exister. Si la personne